6h02, nous sommes vendredi 14 août. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. Alors, c'est une autre belle journée qui, je dirais, clôture une très belle semaine au chapitre de la météo, avec du temps ensoleillé encore une fois aujourd'hui, maximum prévu autour de 27 degrés, l'humidex à 30, donc c'est un peu plus confortable que ce qu'on a connu peut-être depuis le début de la semaine. Pour ce qui est de la fin de semaine, samedi, soleil, 29 degrés, donc une autre belle journée. Et dimanche aussi, on prévoit du soleil 29. Par contre, vers la fin de la journée, la soirée, ça va se couvrir et on prévoit du temps donc nuageux. Et pour retourner au travail, reprendre des activités lundi, ben, on prévoit de la pluie en bonne quantité pour toute la journée. Commençons ce matin par la COVID. Il y a un certain nombre de nouvelles. D'abord, il y a eu des cas d'éclosion dans un Costco, des employés. Parenthèse, il semble que ça se limite aux employés qui n'auraient pas de clients de toucher. Il y a aussi 20 résidents dans un centre de soins de longue durée et 3 employés qui ont été contaminés. C'est le centre Farfilia Ferland qui se trouve à Saint-Charles-Borromée, qui est connecté là, sur l'hôpital. Et ça a été enregistré dans une unité où se trouvent 34 patients. Alors, évidemment, il y a des mesures qui ont été prises, dépistage, etc. Je vais faire une parenthèse tout de suite, parce que depuis le début de la semaine, je reçois beaucoup de courriels de gens qui travaillent dans des centres, des gens qui sont en formation. On a parlé avec 2 personnes cette semaine qui vont, à la mi-septembre, faire partie des renforts. Et quand j'ai insisté sur entre le discours officiel et le concret terrain, il y a parfois toute une différence. Dans la région, la grande région de Québec, là, je ne veux pas donner de détails parce que je ne veux pas que les gens soient identifiés. Là, on nous a dit depuis le début, il va y avoir des zones, puis c'est pas vrai que les gens vont se promener d'un établissement à l'autre. Bien, ça fait quelques courriels que je reçois de gens qui font partie d'équipes qui se promènent d'un centre à l'autre, notamment dans la région de Charlevoix. C'est un exemple. L'autre exemple, c'est qu'encore dans certains établissements, les patients partagent une salle de bain. Ils sont collés dans des unités. Disons que les fameuses mesures là, pour endiguer ou prévenir une deuxième vague avec des effets dévastateurs, je ne suis pas certain, moi, qu'on les applique tant que ça. Et il y a toute une controverse autour de la formation et surtout de la rémunération. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques. Mais de toute évidence, là, quand tu te fais promettre des primes, quand tu te fais promettre un emploi à temps plein, avec un taux horaire précis, que le politique te dit c'est ça que tu vas avoir, puis que l'administratif entretient la confusion. Je le dis, je le répète, j'insiste, parce que c'est pas bien bon pour le climat de travail. Puis là, vous avez les gens qui sont déjà préposés, qui voient arriver les autres. Il y a un enjeu syndical aussi. Alors, tout ça pour vous dire, je comprends le discours de Québec qui dit on va être équipé, on a du personnel, on a du renfort, on va s'assurer que les centres de soins de longue durée soient, disons, mieux divisés par des zones qui seront respectées pour tenter au maximum de limiter, s'il y a des cas, le nombre de patients touchés. Mais c'est sûr qu'il va y en avoir des éclosions. Je vous le dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre le discours du ministre, Christian Dubé, et ce qui se passe dans la machine. J'ai ma théorie là-dessus. Je pense que il y a du gossage administratif, il y a de la bureaucratie, puis c'est jamais la faute de personne, puis c'est surtout pas jamais la responsabilité de quelqu'un. Mais je peux vous dire, je ne pense pas que ce soit des cas isolés, parce que des gens me rapportent ça dans la région de Québec, donc Charlevoix, d'autres me rapportent ça ailleurs. Fin de la parenthèse sur ça. Deuxième question concernant la COVID, est-ce que les enfants peuvent transmettre la maladie? Il y a eu toutes sortes de théories, je dirais, qui ont été émises depuis le début, en disant, ben, les enfants, probablement, n'auront pas vraiment, c'est pas comme la grippe. Après ça, on a dit, ben, ils peuvent avoir le virus, mais c'est pas certain qu'ils sont capables de le transmettre. Bon. Alors, depuis hier, on a peut-être des précisions là-dessus, notamment dans The Gazette ce matin, où ce qu'on constate, ce que la science dit actuellement, c'est que oui, les enfants, ils peuvent avoir la COVID. Avec, dans la grande, grande, grande majorité des cas, des symptômes limités. Puis parfois, pas de symptômes non plus. Donc, les enfants ne réagissent pas nécessairement comme des adultes. Mais ils peuvent transmettre aussi la maladie. Au début, je vous le dis, on n'était pas sûr. Et on cite une pédiatre qui est spécialisée dans les maladies infectieuses. Et d'ailleurs, on va parler avec le docteur Calvez tantôt. Docteur Fatima Kakar, qui dit que c'est quand même assez fascinant de voir ça. Des enfants qui ont rien en apparence, puis le résultat est positif. C'est pas une erreur de test, là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est sûr qu'avec la rentrée scolaire, on va en avoir des cas dans des écoles. Il y a bien des parents qui sont inquiets, là, je le sais. Mais c'est sûr qu'on va en avoir. Mais c'est mieux que les enfants soient à l'école que confinés avec un enseignement à distance. Et je vois encore ce matin des articles dans Le Devoir, entre autres, sur des enfants qui ont des parcours difficiles, des enfants qui ont des difficultés aussi d'apprentissage. Puis ils ont perdu des mois, là. Ça va être difficile de rattraper. Puis là, on s'attend à ce que le ministre de l'Éducation, M. Roberge, nous annonce c'est quoi le plan de match pour ce pourcentage élevé d'élèves, 25, 30, 35 % des élèves, qui, avant la pandémie, avaient des difficultés. Alors, tout ça pour vous dire que oui, il y en aura des cas. Oui, qu'il faut faire attention, en se disant c'est peut-être pas grave pour les enfants dans la mesure où, puis on l'a vu, là, dans les quelques cas qu'on a pu voir dans certaines régions du Québec, on avait ouvert les écoles. Mais ils peuvent, évidemment, contaminer des adultes. Et là, ça amène toute la question des gens qui sont adultes, les parents qui ont des problèmes de santé, immunosupprimés ou autres. Comment on va s'organiser? Puis le dernier volet concernant les écoles aussi, dont je vais vous parler, c'est le transport scolaire. Hier, on parlait, évidemment, pour ce qui est de Seigneurie des Mille Îles, là. Et ça s'applique aussi à un paquet d'autres, j'allais dire commissions scolaires, mais centres de services scolaires, où, par exemple, si vous vous êtes séparés, que vous avez une garde partagée, il y a une adresse et pas deux pour le transport. Fait qu'entre ex-conjoints et mes parents, il faut s'organiser. Puis je lisais mes courriels hier, là, les gens me racontent leurs histoires, puis je sais que c'est compliqué, là. Contrairement à ce que disait la représentante du centre de service quand elle dit, elle parlait des fantômes, les places fantômes, parce que les enfants, c'est pas des fantômes, là. Ils existent. On comprend qu'on peut les compter et puis tout ça, là. Mais il y a des histoires, là, où on dit, ou bien vous faites marcher les enfants, puis parfois la distance est importante, ils prenaient déjà l'autobus. Puis parfois aussi, pour les plus petits, c'est dans des secteurs, disons, avec une bonne densité de circulation automobile puis des intersections qui peuvent être dangereuses. Fait que là, les parents, ils veulent pas laisser les enfants aller à pied, mais tu sais, c'est pas clair. Puis là aussi, il faut que tu fasses un choix entre le service de garde puis le transport scolaire. Et on parle ici de centaines d'enfants, là, par centre de service. Et les gens ils me disent, on appelle le député, on essaye de voir, puis il n'y a pas de solution. Je pense qu'il n'y en aura pas. Puis il y a un père qui me dit, ben, on est en train de trouver entre voisins là, une formule de transport privé. Mais le mot d'ordre là, pour la rentrée scolaire, pour beaucoup de parents et donc pour les enfants, ça veut dire qu'il faut s'organiser pour ce qui est des déplacements et des retours donc de l'école. 6h11, on va aller voir Marc. Peut-être deux choses. D'abord, l'état de la situation, puis deuxièmement, les travaux, les entraves de la fin de semaine. Merci beaucoup. Alors, il est 6h13. Un mot aussi, et on aura le ministre Éric Kerr plus tard, là, sur cette application de traçage de la COVID. Monsieur Kerr a dit, a dit hier que lui, ça ne le dérangeait pas trop que la compagnie Shopify se soit pas présentée. Ça n'a pas l'air à le déranger. Il est bien chanceux, parce que moi, j'ai trouvé ça insultant, méprisant. en disant « Ouais, mais c'était des questions techniques qu'on voulait leur poser, puis, tu sais, dans le fond, c'est pas si pire que ça. » Bien, peut-être. Peut-être. Mais d'abord, quand l'Assemblée nationale te convoque, tu te pointes. Surtout que tu essaies de pousser ton logiciel. Et en parlant du logiciel, moi, ce que je veux savoir actuellement, là, on est en train de consulter les Québécois. Est-ce que les Québécois, puis la question, on se pose à vous, là, cette application-là devient un jour disponible, allez-vous l'utiliser? C'est quoi le principe? C'est de pouvoir détecter des gens qui ont la COVID, qui pourraient donc contaminer, et pour, par cette opération, donc, avec une application, limiter les risques de contagion. Et là, il y a toute la question des données personnelles. Hier, la présidente de la Commission d'accès à l'information, vous avez la Commission des droits de la personne aussi, qui dit que c'est important de donner des garanties. Le cadre juridique au Québec est flou sur ces questions-là. Et c'est toute la question de la protection des données personnelles. Là, on nous dit qu'il n'y a aucun problème. Vous permettrez d'avoir des doutes avec les événements qu'on a vécus dans les derniers mois. Et donc, est-ce que les gens vont vouloir, parce que c'est une application qui localise, entre autres, abdiquer une partie de leur liberté pour sauver des vies, prétend-on? Et pour que ça marche, on le sait, il faut qu'il y ait une adhésion de 50, 60 % puis même plus de la population. Et là, on se rend compte de quoi? C'est que d'abord, les plus jeunes ne sont pas vraiment intéressés. Et ce sont eux qu'on voudrait principalement suivre. Deuxièmement, c'est pas tout le monde qui a un téléphone intelligent. C'est pas tout le monde qui a la technologie pour être capable d'utiliser l'application. Alors, il y a encore beaucoup, beaucoup de points d'interrogation avant qu'on soit, disons, plus avancé dans ce dossier-là. Parlons de la Ville de Montréal maintenant. Comment dire? Pour les gens qui étaient là au début de l'émission, tantôt, on a parlé, encore une fois, des problèmes d'accès du vieux Montréal qui est désert. Les bureaux sont fermés dans le vieux un peu partout. L'activité commerciale générée par les touristes est à peu près inexistante. Puis là, il y a évidemment tout le casse-tête des entraves puis des chantiers, puis c'est un foutu bordel. Et je répète, parce que hier, j'ai été inondé de courriels toute la journée, là. L'idée, c'est pas de s'en prendre et de vouloir enlever les vélos au profit de l'auto, là. C'est pas ça l'idée. Le principe numéro un, c'est de rendre un service à l'ensemble des citoyens et pas juste à ceux et celles qui font du vélo. Des gens qui utilisent l'autobus, des gens qui marchent, des gens qui ont une auto parce qu'ils s'en servent de temps en temps pour des trucs importants. Puis, pour beaucoup de familles que la Ville de Montréal voudrait attirer, c'est de les repousser. Puis, je ne tiens même pas compte du prix là, des propriétés. Alors, on apprend ce matin dans la presse, avis à tout le monde, que la Ville a décidé qu'il n'y aura pas un report additionnel de taxes foncières. Donc, ça veut dire que les commerçants devront payer leur compte de taxes dans moins de 3 semaines. Puis des commerçants qui en arrachent pour la plupart. Et on sait que la Ville a des enjeux financiers avec ce sondage obscur, pour ne pas dire bidon. On va augmenter les taxes, ça c'est sûr, ça c'est sûr, c'est sûr. Plus que l'inflation, on sait que M. Doré est quelqu'un qui considère, pour rappeler sa déclaration dans le passé, qu'une couple de 100 piastres de plus par année, il n'y a rien là. Hein? Si on veut vivre à Montréal, c'est ça que ça coûte. Ou encore, donc, demander à Québec un déficit, ou couper dans la police, couper dans les vidanges, puis couper dans d'autres services municipaux. Et je répète, vous ne pourrez pas croire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre à la Ville de Montréal pour réduire la bureaucratie. Je vais vous raconter quelques expériences. Alors, donc, on peut lire ça. Il y a une histoire très bizarre dans la presse de ce matin. Il y a des forums. Sincèrement, je ne savais pas que ça existait, là. Mais des forums, donc, dans l'univers virtuel, où on donne une espèce de recette pour se suicider. Et c'est présenté, c'est toujours pareil, ces histoires-là. On ne dit pas, on vous encourage à vous enlever la vie, mais on vous donne le choix. Nous sommes des gens respectueux de la liberté de quelqu'un de s'enlever la vie. Alors, on raconte l'histoire d'un jeune de Sherbrooke de 21 ans, Alex Pazienza, qui, bon, avait était dans un état dépressif. Il a, évidemment, comme bien des gens aussi, tenté de trouver de l'aide. Mais on sait qu'en santé mentale au Québec, pas simple. Et selon deux enquêtes qui ont suivi sa mort, il vivait avec un trouble du spectre de l'autisme, probablement aussi Asperger, et il s'est suicidé en octobre 2018. Et donc, le forum en question, les gens échangent, partagent sur la façon de s'enlever la vie. Une plainte à la police ne peut pas faire grand-chose, c'est pas basé au Canada. Mais tout ça pour vous dire que ça existe et qu'il y a des gens qui, déprimés ou qui ont toutes sortes de problèmes, peuvent trouver ce genre d'informations facilement sur le web. Et vous lirez le témoignage de la mère du jeune en question aussi. C'est assez troublant. Bon, le Bloc québécois a dit hier que c'était pas impossible qu'on fasse une motion et qu'on batte le gouvernement Trudeau puis qu'on se ramasse en élection cet automne. D'ailleurs, on apprenait qu'Élections Canada est en train d'huiler la machine pour être prêt. Est-ce que les Canadiens veulent aller en élection maintenant? Bonne question. La deuxième question, c'est extraordinaire, et moi j'en reviens pas là, comment le gouvernement Trudeau arrive à surfer sur une série de scandales d'éthique? Dans le cas de M. Trudeau, là, la liste est quand même longue, là. L'Aga Khan et l'île privée. Puis là, il se fait taper sur les doigts, puis il s'excuse. Là, il arrive avec l'histoire de We Charity, Unis. Et on apprenait hier que les gens de cette organisation, les grands amis de M. Trudeau, ceux qui embauchent son frère, sa mère, ont, à 43 reprises dans les 6 mois précédant l'octroi du fameux contrat, là, pour ce qui est de la prime là, aux étudiants, 43 fois, il y a eu des activités de lobbying auprès des ministres du gouvernement Trudeau. Puis ces gens-là n'étaient pas enregistrés. Ils se sont enregistrés hier. L'opposition gueule un peu, là. Hey, c'est pas des farces, là. Le ministre des Finances est encore là. C'est comme si dans l'été, on oubliait tout ça, ces détails. C'est vraiment, moi, ça me jette à terre. Un ministre qui reste en poste après ça, malgré les rumeurs, là, puis alors, j'étais totalement confiance en lui. Hey, comment ça se fait que un gouvernement où l'éthique est passée dans le collimateur, piétinée, puis c'est pas avec des larmes de crocodile que tu règles le cas, là, en faisant une pièce de théâtre, puis en disant « je m'excuse de vivre ». Mais c'est drôle, ça passe, ça a l'air correct, puis t'entends pas trop parler de ça, tu peux pas dire que t'es un grand sujet de conversation, mais en tout cas. Deux choses en terminant. Trois, il y a un sondage léger concernant la politique américaine. Les Américains nous aiment bien, les Canadiens de façon générale, bon. Joe Biden est en avance, ça vient s'ajouter à un paquet d'autres sondages, et là, ça varie. Alors, est-ce qu'il y a 6 points d'avance? Est-ce qu'il y a 8 points d'avance? Est-ce qu'il y a 9 points d'avance? Il y a une chose qui est certaine, c'est que Donald Trump, il n'est pas battu, et je ne suis pas certain que s'il est battu, il va accepter la défaite. Il voulait reporter l'élection. Là, il conteste le vote postal. Et hier, on l'a vu encore dire que Kamala Harris, mais je suis pas sûr. Là, j'entends dire qu'elle ne peut peut-être pas être éligible pour être vice-présidente. Or, c'est pas vrai, là. Ses parents immigrants, elle est américaine, pas le droit de se présenter. Bon. Et on sait qu'elle fait partie un peu du jeu là, de discréditer. Mais c'est loin d'être fait. Alors, va être intéressant de suivre ça dans les prochaines semaines. Et juste pour finir, la vie des gens riches et célèbres. Ce matin, dans la presse, on rapporte une transaction immobilière résidentielle là, la plus importante. Vente de propriété privée. C'est une maison qui a été vendue pour 20 millions. C'est une maison qui est située sur Red Pad Crescent, 30 000 pieds carrés. Et, bon, je peux vous donner les détails, là. 6 chambres, 6 salles de bain, ascenseur, piscine creusée, puis un léger garage qui peut accueillir 14 voitures. Et là où c'est intéressant, c'est que officiellement, selon le registre de la ville, la propriété appartient à l'homme d'affaires, pas certain de prononcer son nom correctement, Merzad Perrault, et à Sipide Latifkar. Tu dis, OK, c'est qui ça? Bien, ce gars-là est connu. Il y avait un reportage dans le Journal de Montréal pour des augmentations, disons, très élevées de loyers qui étaient en fait des taudis. Tu sais, ça a l'air du genre là, qui te charge la totale puis qui ne rénove pas. Alors, lui est capable de s'acheter une maison de 20 millions, puis tu sais, c'est quand même, il faut le faire. Là. Alors, est-ce que tout ça a été validé après? Mais en tout cas, il y avait un reportage à l'époque quand c'était sorti sur le prix de cette joyeuse propriété. 6h24 minutes. Véhicule en panne sur la 40.